Vous êtes sur RTL.
Et à 6h, l'actualité de votre samedi, c'est d'abord l'inquiétude XL affichée hier soir par les autorités de santé européennes et même mondiales face à ce nouveau variant du Covid-19. Détecté à l'origine en Afrique du Sud, il a depuis quelques heures un nom, Omicron, et représente un risque préoccupant pour l'Organisation mondiale de la santé. L'Agence de santé de l'Union européenne parlant, elle, d'un risque élevé à très élevé. Une trentaine de cas ont été dénombrés en Afrique du Sud, un autre à Hong Kong, un supplémentaire en Israël et un malade en Belgique, le premier sur le sol européen. Un nouveau venu dans la famille des variants qui suscite, Odile Pouget, bien des interrogations.
Ce qui a étonné et alerté les scientifiques, c'est la multitude des mutations observées sur sa protéine spike, les pics qui hérissent la surface du virus. Une trentaine de mutations au total, un record. Certaines, jugées préoccupantes, pourraient le rendre plus contagieux, avec une capacité de transmission accrue. Il pourrait être également moins sensible à la réponse immunitaire liée au vaccin que ne l'est le variant Delta. Mais pour l'instant, les données scientifiques sont encore trop parcellaires. Il faut attendre une quinzaine de jours, c'est le délai annoncé par le laboratoire Pfizer-BioNTech, pour savoir si ce nouveau variant est capable d'échapper à la protection vaccinale. La seule note positive, c'est qu'il se détecte très facilement par test PCR.
Odile Pouget, merci Odile, spécialiste santé de RTL. En attendant d'en savoir plus, le monde réagit et isole l'Afrique australe. La France, l'Allemagne, l'ensemble des pays européens d'ailleurs, mais aussi le Canada et les États-Unis depuis hier soir, ont décidé de suspendre les voyages depuis et vers l'Afrique australe. Inquiétude qui a fait plonger les bourses hier, mais aussi les cours du pétrole. En attendant d'en savoir plus sur ce variant préoccupant, les nouvelles mesures décidées par le gouvernement français face à la cinquième vague entre en vigueur, retour des masques pour faire du sport, port du masque obligatoire à Paris, en plein air, dans les endroits fréquentés, sur les marchés, aux abords des écoles, dans les cinémas, les théâtres. Masque nécessaire aussi pour déambuler sur le marché de Noël de Strasbourg. Il va falloir le porter également dans le centre-ville de Bordeaux. Les Antilles et les épisodes de violence de ces derniers jours avec un gouvernement qui multiplie les gestes envers la Martinique et la Guadeloupe. L'obligation vaccinale des soignants et des pompiers sur place est repoussée au 31 décembre, avec l'objectif de calmer la contestation. 150 personnes ont été interpellées depuis le début du mouvement. Cela suffira-t-il? C'est pas certain. Si l'on écoute ce matin Olivier Villerons, infirmier anesthésiste au CHU de Martinique et membre de l'intersyndicale, rencontré sur place par Adeline Courson.
De toute façon, nous n'avons pas cessé de dire au préfet, au directeur de l'ARS et aux différents responsables d'établissements que suspendre les agents en pleine crise sanitaire, alors qu'au même moment, nous avons besoin d'eux pour prendre en charge la population martiniquaise, est d'une incohérence crasse, franchement. Et si, monsieur le préfet, a fini par en comprendre, même si c'est avec l'aide des ministres, que nous ne pouvons que s'en réjouir, parce que franchement, nous allions rentrer dans une rupture de la continuité du soin. Nous voulons quand même leur demander de revoir leur copie, parce que la finalisation de la mise en œuvre effective de l'obligation vaccinale au 31 décembre va impliquer de facto que le 6 décembre, que la première injection ait lieu. Donc là, ça veut dire que c'est la semaine prochaine. Donc il va vraiment, mais alors vraiment, falloir revoir cette copie. Nous ne sommes quand même pas des imbéciles.
Le gouvernement, qui par la voix de son ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, s'est dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Sujet évoqué par certains élus locaux qui souhaitent plus de liberté de décision. L'affaire Hulot, à présent, cela fait grand bruit depuis la prise de parole de plusieurs femmes dans l'émission Envoyée spéciale, accusant l'ancienne star de la télé et l'ancien ministre de viol ou d'agression sexuelle commis entre 1989 et 2001, ce qu'il conteste. Tellement de bruit et de commentaires, même chez des membres du gouvernement, qu'une enquête préliminaire est ouverte, Alice Moreno, assez logiquement.
Oui, le parquet ouvre systématiquement une enquête quand il s'agit d'accusations de violences sexuelles sur des mineurs. La justice va donc se pencher sur le témoignage de Sylvia. Elle affirme que Nicolas Hulot a tenté de lui imposer une fellation. C'était en 1989. Elle était alors âgée de 16 ans. Les enquêteurs vont bien vérifier que ces faits tombent sous le coup de la prescription, même si cela laisse peu de doutes. Si d'autres femmes femme décide de porter plainte contre Nicolas Hulot pour des faits similaires, le parquet n'exclut pas d'élargir l'enquête ouverte hier. En coulisses, la défense de Nicolas Hulot tente de s'organiser, en atteste ce message rédigé par son entourage. Ce SMS devait être envoyé à des dizaines de femmes qui ont côtoyé l'ancien ministre. Objectif, les inviter à signer une tribune dans laquelle elles assureraient n'avoir jamais vu ou entendu parler de tels agissements de la part de Nicolas Hulot. Mais le projet a, semble-t-il, été abandonné. Quant à une possible riposte pénale, une plainte pour diffamation, son avocat assure que ce n'est pas un sujet à ce stade.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. L'archevêque de Paris, lui, nommé il y a 4 ans, a remis cette semaine sa démission au pape François. Cela fait suite à la parution d'un article du Point mettant en cause la gestion du diocèse de Monseigneur Michel Aupetit et révélant qu'une relation intime avec une femme. Le pape François peut accepter ou refuser cette démission. Marie Guerrier nous expliquera ce matin sur RTL que le souverain pontife peut prendre plusieurs semaines avant de trancher. La politique est un vendredi éclair d'Éric Zemmour à Marseille. Le presque candidat à la présidentielle a traversé le quartier du Panier hier au pas de charge, insulté par des habitants. Le polémiste estimant la ville désintégrée par l'immigration. Si on ne fait rien, toute la France sera comme Marseille, a-t-il déclaré. Ce samedi, il doit se rendre sur le Vieux-Port. En attendant, sa candidature officielle pronostiquée pour la semaine prochaine. Nous sommes le dernier week-end de novembre et à un petit mois de Noël. Il devrait y avoir du monde dans les magasins ce samedi. C'est l'occasion de penser aux autres, car a débuté hier et jusqu'à demain dimanche la collecte pour la banque alimentaire. 25 millions de repas seront ensuite distribués dans tout le pays. En Ile-de-France, cette collecte de l'automne représente un tiers des dons de l'année. C'est donc un moment crucial et tout le monde, bénévoles, salariés, associations et sur le pont. Illustration avec vous, Aurélia Valarier, sur l'un des sites de la banque alimentaire à Gennevilliers, près de Paris.
Dans cet immense entrepôt de 2000 mètres carrés, Béatrice range des derniers cartons.
Les boxes de produits frais sont prêtes.
Cette bénévole de 72 ans m'emmène ensuite dans une petite salle cachée par des rideaux en plastique où elle compte bien passer tout son week-end.
La salle de tri. On étiquette les bacs et à la fin, on note le poids.
Est-ce que vous êtes prête pour ce week-end ?
Tout à fait prête, tout est organisé. On attend de pied ferme que les camions arrivent chargés de palettes, en forme et souriant.
Et il va lui en falloir de l'énergie pour trier les 224 tonnes de nourriture attendues d'ici dimanche, avant de les redistribuer aux associations partenaires. D'autant que cette année, avec la crise sanitaire...
De plus en plus de personnes ont recours à l'aide alimentaire.
Avec notamment l'apparition de nouveaux profils, Nicole Farlotti est présidente de la Banque Alimentaire Île-de-France.
On a vu arriver des associations qui s'occupent spécifiquement des étudiantes, donc énormément de jeunes depuis un an aussi.
Pour venir en aide aux 350 000 bénéficiaires de la région, tous espèrent ici que les dons seront nombreux cette année. Alors notre bénévole Béatrice a un message pour les auditeurs de RTL.
Il faut vraiment qu'on ait des palettes à ne plus pouvoir mettre un pied dans l'entrepôt. Là. Oui.
Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer physiquement au point de collecte, sachez que l'on peut faire des dons en ligne sur le site Mon Panier Solidaire. Reportage RTL Aurélia Valarier. Les sports et la Ligue 1 de football, épisode 15 et le match nul hier soir de partout entre Lens et Angers. Les Lensois 4e au classement, Angers 6e, mais c'est provisoire. La suite ce samedi, 2 rencontres. Lille-Nantes à 17h et ce soir Nice face à Metz. Rencontre à suivre dans On refait le match et RTL Foot, soirée ballon rond de 18h30 à 23h. L'occasion de saluer le sans faute de nos filles. L'équipe de France féminine a dominé hier soir le Kazakhstan 6-0 sur le chemin du Mondial 2023. Le retour sur les parquets des champions olympiques. Les Bleus du basket ont réussi leur entrée dans les qualifications pour la Coupe du Monde dans 2 ans. Victoire hier contre le Monténégro à Pau 73-67. Et puis il y a un Français heureux, très riche ce matin. Un seul joueur a remporté hier soir le jackpot Euromillions d'un montant dépassant les 162 millions d'euros. 162, c'est le 5e plus gros gagnant en France. La combinaison gagnante de ce 26 novembre, le 1, le 20, le 41, le 42 et le 50. Et puis les étoiles 3 et 7. Pour l'instant, on ignore tout du vainqueur et de la localité dans laquelle la grille a été validée. Et ce soir, on remet ça avec le traditionnel loto. Et là encore, Pierre Herbulot, beaucoup d'argent à la clé.
25 tirages consécutifs sans vainqueur. Personne n'a coché les bons numéros depuis le mois de septembre. Et un joueur de Thionville, en Moselle... Une panne de chance au niveau national. Du jamais vu en 45 ans de loto. Alors, les millions s'accumulent. 27 millions d'euros. 27 millions d'euros, ce n'est finalement qu'une belle villa à la mer, un somptueux chalet à la montagne, une belle voiture, un tour du monde et 20 millions d'argent de poche pour profiter de la vie.
Un million d'argent de poche, Pierre Herbulot pour RTL. Bonne chance à vous si vous tentez l'affaire. Ce soir, je vous redonne la combinaison gagnante du super jackpot de l'euro million. Hier soir, on ne sait jamais, prenez vos tickets. Le 1, le 20, le 41, le 42, le 50 et les étoiles. 3 et 7, l'appli RTL, on vous met tout ça en détail, bien sûr. Le temps du jour, il y a du froid, pas mal de froid. Par exemple, chez Ingrid, en Bretagne, à Vannes, il y a 3 degrés de la pluie et un vent glacial.
Oui, il y a beaucoup de vent en Bretagne, il va y avoir un coup de vent d'ailleurs. On a relevé des rafales à 120 km/h sur le Finistère à l'heure qu'il est. Ça souffle aussi pas mal en Corse, notamment en Haute-Corse. On a des rafales à plus de 130 km/h sur le Cap, un ciel chargé partout, des pluies ou plutôt des giboulées. Il neige en montagne actuellement entre 400 et 700 mètres sur tous les massifs. Et on a un petit peu de neige en plaine, en Lorraine, en Normandie, dans le Nord ou encore en Picardie. C'est la tendance du jour, un temps tout pourri partout, tout simple, hein, avec des giboulées assez fréquentes. Attention, vraiment, toute la matinée, on pourrait avoir de la neige en pleine dans les Hauts-de-France. On pourrait attendre 2 à 3 cm de neige. Ça ne va pas tenir très longtemps, mais il n'empêche qu'il faudra être prudent. Côté soleil, parce qu'il va y en avoir, figurez-vous, entre le Roussillon et la Provence. Et puis c'est tout, en fait. Les températures ce matin, on a 1 degré à Lille, 2 à Tours, 5 à Marseille. Cet après-midi, comptez 3 à Belfort, 5 à Auxerre et Amiens, 6 à Paris, à Limoges, à Chambéry, 9 à Montauban et 13 à Toulon.
C'est bien complet. Merci Valérie. Les courses du jour, le quintet de l'après-midi.